Voici l'Europe. Xavier Chemisseur.
Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble sur France 24 et RFI pour recevoir notre grand invité. Nous accueillons aujourd'hui une figure de l'économie et de la finance européenne, ancien directeur de la Banque de France de 1993 à 2003, ancien directeur de la Banque Centrale Européenne aussi de 2004 à 2011. Autant dire que les flux, les reflux de l'économie et de la dette, ça le connaît et ça tombe bien. Il va beaucoup être question prochainement d'endettement à Paris et à Bruxelles. Question aussi de croissance, molle ou pas, de taux d'intérêt, d'inflation plus ou moins maîtrisé. En gros, de notre avenir. Pour y voir un peu plus clair, notre invité, Jean-Claude Trichet. Jean-Claude Trichet, bonjour.
Bonjour.
Alors, je le disais à l'instant, la France va de nouveau être dans le viseur de Bruxelles à court terme. La France va mal. Enfin, heureusement, il y a les Jeux Olympiques et les chiffres de la croissance annoncés avec cette timide reprise, plus 0,4% au troisième trimestre. C'est mieux que l'Allemagne, cocorico. Mais la France, Jean-Claude Trichet, c'est le sujet de la rentrée et particulièrement endettée.
En effet, elle est vraiment très endettée. Elle est, de ce point de vue-là, le plus mauvais pays d'Europe, ce qui est un peu dur quand même. Et moi-même, j'ai de la peine quand je dis ça, mais ce sont les chiffres. Et on doit absolument redresser la barre. Je suis, je dois dire, un peu rasséréné que le nouveau gouvernement ait en tête qu'il faut effectivement changer la direction que nous avions prise en matière de finances publiques. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être le plus mauvais élève de la classe. Cela dépend évidemment de la conjoncture européenne et internationale, mais si jamais il y avait un sérieux coup de tabac, alors ça nous mettrait dans une position qui serait mauvaise. Donc il faut prévenir, et donc prévenir, ça veut dire redresser la barre.
Alors bien sûr, on va y revenir. Que peut faire Paris ? Après sa prise de fonction, le Premier ministre Michel Barnier a annoncé engager des réformes. Il annonce un déficit ramené à 5% l'année prochaine. Mais est-ce que c'est réaliste et est-ce que la France est encore dans le domaine encore crédible finalement ?
Écoutez, la France, pour le moment, est crédible. Et si le gouvernement arrive à ses fins, c'est-à-dire à cet objectif de 5%, avec une combinaison d'ailleurs de diminution de la dépense et d'augmentation des impôts, dans une proportion 2/3, 1/3, s'il y arrive, ce que croient les marchés pour le moment, il me semble que les marchés font confiance pour le moment au nouveau gouvernement. Donc normalement, si vous voulez, nous devrions éviter le coup de tabac que j'évoquais.
Alors, la France est quand même sous surveillance. Les agences de notation, les marchés, hein, on parle de Fitch ou de Moody's par exemple, ont ouvert la porte à un futur abaissement de la note, mais en offrant un répit de quelques semaines. La Commission européenne passe sur le grill devant le Parlement européen pour les auditions très attendues. C'est un nouveau répit finalement, mais une fois en fonction, la Commission européenne, elle va devoir se pencher sur cet endettement excessif. Plus de 3228 milliards d'euros de dette en septembre. Se pencher sur le non-respect des critères de Maastricht par la France, critères qu'elle respecte assez rarement. Et puis cette fois, elle ne les respecte clairement pas dans des proportions assez rares. 6% du PIB, la France n'est clairement pas dans les clous. À votre avis, Jean-Claude Trichet, que va faire Bruxelles ?
Alors, ça va dépendre évidemment de ce qui sera finalement voté au Parlement français. C'est ça qui était absolument essentiel. Pour le moment, on fait crédit, me semble-t-il, au gouvernement Barnier d'arriver à ses fins, puisqu'il l'a dit très très clairement, il s'engage totalement sur son programme. Et donc, les agences de crédit d'un côté, la Commission de l'autre, l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble des épargnants sur le plan mondial font pour le moment confiance, me semble-t-il. Alors, il est absolument essentiel d'arriver, en effet, au résultat qui a été annoncé. Si on y arrive, je pense alors que la France sera placée sur une trajectoire qui sera toujours celle d'un mauvais élève, notamment par rapport aux autres mauvais élèves que sont les Italiens ou les Belges. Mais néanmoins, nous serions sur une trajectoire qui devrait convaincre l'ensemble des épargnants et des investisseurs du monde, qu'on est en effet capable d'honorer ce que l'on emprunte.
7 pays sont surveillance, il n'y a pas que la France, hein, bien sûr. La règle, c'est 3% d'endettement par rapport au PIB. Alors, C'est une règle qui est régulièrement remise en question, mais bon, c'est la règle. On devrait on devait en être en France à un peu plus de 4% au mois de juin, officiellement tout du moins. Et puis on a découvert à la rentrée que cet endettement, eh bien, il s'établissait à un peu plus de 6%. Deux questions assez simples en apparence. Comment l'expliquer et surtout à quoi s'attendre ?
Je reviens, si vous le voulez bien, un instant sur la règle des 3%. Parce que les Français ne le savent pas très bien, mais c'est eux qui ont introduit la règle des 3%. Les autres pays n'étaient pas forcément d'accord. Certains avaient dans l'idée qu'il valait mieux avoir une sorte de règle d'or qui faisait qu'on devait totalement équilibrer les dépenses récurrentes et dépenses normales, en quelque sorte. Mais la France, après l'expérience qu'elle avait faite d'ailleurs en 80, 82, 83, pensait qu'il valait mieux avoir une règle simple, comprise par tout le monde, et communicable à tout le monde. Et c'est ce qui a finalement été choisi. Alors, quand on parle de la règle des 3%, il faut bien voir que ce n'est pas une règle qui devrait s'appliquer en temps normal. En temps normal, dans les règles européennes, on est équilibré. Et cet équilibre vous permet d'utiliser l'arme budgétaire quand vous êtes en situation difficile pour ne pas dépasser ensuite les 3%. Ça, vous avez en quelque sorte trois cartouches de 1% du produit intérieur brut, trois cartouches de 1% du produit intérieur brut à brûler si vous êtes en situation difficile.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on n'a plus de cartouches. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on n'a plus de cartouches en France.
On n'a plus de cartouches du tout, bien entendu, en France. On n'a plus de cartouches du tout, conformément aux règles. Alors, ceci dit, il y a des raisons pour lesquelles on peut, en effet, se retrouver à court de cartouches. Et l'une des raisons est évidemment le Covid, l'accumulation des dépenses supplémentaires liées au Covid, qui explique une partie de la difficulté d'un assez grand nombre de pays, comme vous l'avez dit vous-même.
On demande aujourd'hui 60 milliards d'économies, c'est les Français dans leur ensemble là, qui vont devoir faire un effort. Mais désolé de y revenir, comment on passe de 4 à 6% d'endettement en 6 mois ? Ça mérite un questionnement, non ?
C'est plus de 4 à environ 6. Et effectivement, il y a là un certain nombre d'explications à donner. D'ailleurs, il va y avoir une analyse aussi précise que possible. Je crois que beaucoup, beaucoup d'économistes s'attendent à trouver ce qui n'a pas été du tout, notamment dans les modèles économiques qui ont été utilisés en France pendant cette période. Ce qui m'étonne un peu, c'est que je ne retrouve pas les mêmes décalages considérables dans d'autres pays. Donc, il y a là une spécificité française qu'il faut expliquer. Je pense que nous aurons un début d'explication avec la commission qui a été créée, qui est approuvée par le Premier ministre et qui devrait nous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé.
Vous avez parlé des années 80, la période de la rigueur en France. Jean-Claude Trichet, c'est quoi l'avenir pour la France dans les conditions actuelles ? Est-ce que c'est la fin de l'argent facile et du quoi qu'il en coûte ? Et surtout, est-ce que finalement, l'horizon, c'est la rigueur.
Écoutez, les Français ont une manière très singulière de qualifier leur propre situation. Ils parlent en permanence de rigueur, d'efforts considérables, alors que c'est un pays qui n'est pas rigoureux. Il y a toute une rhétorique qui consiste à communiquer aux Français qu'en réalité, on devrait encore dépenser beaucoup plus. Et c'est comme ça que je m'explique d'ailleurs que nous soyons le pays le plus dépensier au sein des pays industrialisés en termes de dépenses publiques totales en proportion du produit intérieur brut. C'est quand même extraordinaire. Les Français se plaignent en permanence d'une absence de dépenses publiques et en fait, ils dépensent plus que tous les autres. Les deux phénomènes sont corrélés et je crois que nous assistons en ce moment à une certaine prise de conscience.
C'est ça qui fait que la France est devenue le plus mauvais élève de l'Union européenne, à vous écouter ?
En termes de déficit public, en termes de dépenses publiques en proportion du produit intérieur brut, et pas tout à fait, heureusement encore, en matière d'encours de dette publique en proportion du produit intérieur brut, où là nous ne sommes que le troisième, mais nous sommes premiers sur les deux autres critères. Donc il faut changer le cours des choses, c'est clair.
Je vous demande ça parce que vous étiez à la tête de la Banque Centrale Européenne au moment de la crise des subprimes notamment, et en tant que banquier international, un banquier européen, vous avez eu à défendre ce que les marchés justement considéraient comme mauvais élèves.
Au moment de la crise de Lehman Brothers, L'encours de dette en proportion du produit intérieur brut de la France était de 64% du produit intérieur brut, le même que celui de l'Allemagne. Le même. Donc, nous n'avons absolument pas été attaqués ou taquinés par les marchés. Nous étions considérés comme étant tout à fait crédibles. En revanche, 5 pays, la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne et l'Italie, ont été attaqués en effet. Et là, alors, quand vous êtes attaqué, vous ne vous posez plus de problèmes métaphysiques. Vous savez qu'il faut vous défendre. Et ils se sont défendus avec le soutien de la Banque Centrale Européenne et avec le soutien de l'Europe et même, d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux, du FMI.
Un soutien, mais un soutien conditionnel. Là, on impose des règles.
Un soutien évidemment conditionnel, ne serait-ce que parce que tous ceux qui vous aident ne peuvent pas imaginer qu'ils vous aident à fond perdu, que la bataille ne va pas être gagnée contre la spéculation. Je ne pouvais pas imaginer une seconde que la Banque Centrale Européenne allait s'engager dans le soutien aux 5 pays que nous avons dit en ne gagnant pas contre la spéculation. Il fallait gagner. Et c'est ce que moi-même et mon successeur avons fait. Nous avons gagné contre la spéculation.
Je vous demande ça parce qu'aujourd'hui, ces pays vont bien, ils vont mieux. L'exemple espagnol, il est intéressant. Mauvais élève en 2010, personne ne veut lui prêter. 15 ans après, quasiment, l'Espagne a une croissance forte. Elle prend le contre-pied quasiment de toutes les règles avec un gouvernement socialiste. Elle impose les plus riches, les grandes entreprises. Elle augmente le salaire minimum. Elle dit oui à l'immigration, à l'investissement vert et au logement. Et elle fait des économies. À l'arrivée, c'est une croissance record. En mettant en place des mesures qu'on dit impossibles ou idéologiques, c'est juste mécanique ou au contraire, il faut s'en inspirer ?
Je crois que c'est plus compliqué que ça. D'abord, elle a fait d'énormes efforts, comme tous les autres pays attaqués, au moment où, effectivement, il fallait sortir d'une crise gravissime. Et ces efforts ont été payants. L'exemple le plus extraordinaire, c'est celui de la Grèce, parce que vous auriez pu citer aussi la Grèce comme un pays qui se trouve dans une très bonne situation. Or, la Grèce était dans une situation épouvantable. Elle avait 15% de déficit budgétaire et 15% de déficit du commerce extérieur en ce qui concerne la proportion du PIB. Elle a fait des efforts énormes et elle en a le prix maintenant. Elle est dans une situation qui est objectivement bonne. Donc, Espagne, Italie, vous pourriez dire la même chose de tous les autres pays, sans exception, avec aussi l'Italie, même si l'Italie demeure avec un encours de dette en proportion du PIB qui est très supérieur au nôtre. Mais au total, si vous voulez, quand vous faites de grands efforts pour rétablir et de remettre la maison en ordre, vous en avez le bénéfice. Je n'impute pas le bénéfice immédiat de l'Espagne aux mesures immédiates qu'a prise le gouvernement, même si je crois qu'au total, elles sont considérées comme étant relativement sages. Mais il faut aussi noter, évidemment, que l'Espagne est en train de rattraper un retard qu'elle avait sur la France et sur l'Allemagne, produit intérieur brut par tête significativement inférieur. Donc, elle rattrape aussi en même temps.
Justement, la France, l'Allemagne, la France fait figure de mauvais élève, mais on peut pas reprocher aux Allemands, Jean-Claude Trichet, de ne pas respecter l'austérité, la rigueur budgétaire, c'est clairement dans leur ADN. Or, en Allemagne, les chiffres de l'économie sont mauvais, à tel point que l'un des mastodontes allemands, Volkswagen, a étudié un vaste plan de licenciement, des milliers de licenciements chez Volkswagen, une économie en berne, une récession redoutée. C'est grave, docteur ?
L'Allemagne a fait 3 paris. Historiquement, au cours de toutes ces dernières années, le pari de se reposer sur les exportations, et notamment industrielles, en Chine et dans le reste du monde. Et ce pari est mis en cause en ce moment, ne serait-ce qu'avec le problème qui existe entre les États-Unis et la Chine, et aussi les transformations profondes de la Chine, notamment sur le plan des véhicules automobiles, où l'Allemagne avait réussi admirablement. Ça, c'est le premier pari, disons, qui est mis en cause. Elle a fait le pari d'avoir de l'énergie à très bon marché venant de Russie. Ce pari est totalement remis en cause, évidemment, par la guerre en Ukraine. Et elle a fait le pari, comme beaucoup d'autres Européens, pas la France, mais beaucoup d'autres Européens, de se reposer presque entièrement sur les États-Unis en matière de défense. Ces 3 paris, manifestement, étaient des paris risqués. Et le risque s'est matérialisé, si je puis dire. Donc l'Allemagne est particulièrement touchée sur le plan de la croissance. Ceci dit, l'Allemagne est en même temps un pays sain, qui inspire confiance, et donc Je ne crois pas qu'il faille dramatiser le problème allemand.
Jean-Claude Trichet, on a parlé de la France et de l'Allemagne. Le couple franco-allemand va mal, la locomotive va mal, hein, finalement. La locomotive allemande déraille, les nuages s'accumulent, Paris et Berlin s'écharpent sur l'accord UE-Mercosur, Berlin est pour, Paris est contre. Et puis, il y a la crise des droits de douane sur les véhicules électriques que vous avez évoqués, les véhicules électriques chinois, droits de douane adoptés contre l'avis de Berlin. Pékin va saisir l'OMC. Paris était en faveur de la hausse des droits de douane. Berlin était contre. Paris, au risque de voir les spiritueux, les cognacs touchés par Pékin. Berlin, qui exporte, donc était contre ses droits de douane par peur de rétorsion. Est-ce que la France et l'Allemagne sont en mesure de dépasser leurs intérêts et de parler d'une seule et même voix pour élargir la question? Sont-ils capables de jouer leur rôle traditionnel de moteur franco-allemand?
Il y a une chose qui est sûre, c'est que la condition nécessaire, sinon suffisante, pour que l'Europe fasse des progrès, c'est qu'il y ait un bon accord franco-allemand sur les progrès à faire. L'histoire montre que c'est une condition nécessaire. Ce n'est pas nécessairement une condition suffisante, parce que, bien entendu, encore faut-il convaincre les autres pays d'aller dans cette direction. Et puis, on peut à certains moments avoir un autre pays, par exemple l'Italie, par exemple l'Espagne, qui se montre lui-même imaginatif et créatif et qui lance des idées. Au total, l'Europe tout entière doit bouger pour qu'on puisse faire réellement des progrès. Mais c'est vrai, condition nécessaire, sinon suffisante, l'accord franco-allemand. S'il n'y a pas d'accord entre la France et l'Allemagne, je ne dis pas sur tel ou tel dossier particulier, il est normal, si vous avez des différends pour l'industrie automobile, etc., il est normal qu'il y ait confrontation des points de vue. Et donc je ne dis pas que c'est une catastrophe que la France et l'Allemagne puissent avoir des attitudes différentes sur le commerce extérieur, sur l'industrie automobile, etc. Mais c'est sur les grands sujets qu'il doit y avoir un accord franco-allemand. Le dernier qui était vraiment très, très important, à mon avis, est celui qu'il y a eu pour le Next Generation EU au moment du Covid, qui a été une énorme opération du temps du président actuel en France et de Mme Merkel, et qui a été tellement important aux yeux de beaucoup que le chancelier allemand actuel avait dit, à l'époque il était membre du gouvernement, c'est une, un passage hamiltonien. Ça veut dire nous sommes en train de progresser dans la voie d'une fédération budgétaire. Ouais. Je n'en dis pas plus parce que ce n'est certainement pas ce qu'il dirait aujourd'hui.
Oui, c'est
mais
ça.
C'est quand même très important de le noter.
Mais vous l'avez dit, il y a eu une unité européenne exemplaire pendant le Covid ou face au Brexit. On vote actuellement aux États-Unis. Est-ce que cette unité, elle peut menacer de se fissurer? L'Europe est-elle armée pour faire face, par exemple, à l'élection de Donald Trump? Prenons cet exemple-là.
Je crois que, quel que soit le nouveau président des États-Unis, les problèmes entre l'Europe et les États-Unis demeureront. Les États-Unis sont très, très orientés sur leurs propres intérêts. Ils ont la capacité d'imposer beaucoup de choses au reste du monde pour des tas de raisons, et notamment à cause du fait qu'ils sont une fédération politique achevée. Et donc, ils ont non seulement un marché unique, non seulement une monnaie unique qui est le dollar, mais ils ont aussi une armée unique et une diplomatie unique. Ça change beaucoup de choses. Donc, quel que soit le nouveau président, nous aurons à défendre nos intérêts avec acharnement nous-mêmes. Et à mon avis, là je parle en tant que citoyen, pas en tant que président de la Banque Centrale Européenne, en tant que citoyen, je dirais, nous avons besoin de faire encore beaucoup de progrès dans la voie de la fédération politique.
Très bien, et bien la fédération politique européenne, affaire à suivre. Merci Jean-Claude Trichet.
C'est moi qui vous remercie.
Merci d'avoir répondu à notre invitation et puis merci à vous de votre fidélité et à bientôt sur nos antennes.
Témoin d'actu, le podcast d'info de RFI. Alexandra Cagnard.
SpaceX a-t-elle pris une avance décisive dans la conquête spatiale? Le 13 octobre dernier, l'entreprise d'Elon Musk a réussi un exploit inédit en récupérant le premier étage de sa fusée Starship. Avec Simon Rosé dans Témoins d'actu, nous revenons sur cette performance.
Témoins d'actu avec Alexandra Cagnard, tous les samedis à 19h41 sur RFI et en podcast sur RFI.fr.